La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
Des sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. La rue bouge, mais la terre aussi. Le 22 avril dernier, c'était le jour de la terre. L'occasion de penser un peu à Mère Nature. Ce serait bien de le faire un peu tous les jours d'ailleurs. Oui, aujourd'hui on va parler transition foncière et donc artificialisation des sols. Peut-être que vous aussi vous venez d'un petit village et qu'en y repartant récemment vous vous êtes dit « Tiens, mais c'est bizarre, il y avait un champ ici avant, non ?» Et oui, on construit des lotissements avec des maisons toutes similaires les unes aux autres. Peuplons, construisons, consommons, ne serait-ce pas un peu la devise du capitalisme ? Je m'égare, il est urgent de replacer les sols sur la carte. En effet, ils sont sous nos pieds et stockent le dioxyde de carbone. Ils régulent l'eau et ils maintiennent 25% de la biodiversité mondiale et de la fertilité agricole. Et pourtant, dans l'Union Européenne, 70% des sols sont dégradés. Sans parler des ravages du chlordécone, un pesticide utilisé de 1972 à 1993 dans les bananeraies en Martinique et en Guadeloupe. Lié à cela, la Martinique détient le record du monde de cancer de la prostate. Protéger nos sols, c'est avant tout nous protéger et protéger les générations futures. Alors parlons, mais surtout agissons. Les politiques publiques mettent du temps et leurs décisions sont souvent dictées par les lobbies. Petite parenthèse, je vous recommande le film Goliath avec Pierre Niney, Gilles Lelouch et Emmanuel Berco pour comprendre mieux le système des lobbies. Mais des bonnes nouvelles, il y en a. En effet, depuis 2015, par exemple, l'état indien du Sikkim est 100% biologique. Le résultat d'une politique volontariste locale débutée en 2003. Écoutez d'ailleurs le podcast de La Terre au Carré, quand les paysans indiens passent au bio, le pari d'une écologie. Pour en savoir un peu plus là-dessus, ensemble nous pouvons faire bouger les choses. Pour ça, il est urgent d'en parler, de s'informer et surtout de pousser les pouvoirs publics à faire des choix pour le sol et non pas pour eux seuls. Merci d'écouter Radio Campus Paris. Tout de suite, le sommaire de la matinale de 19h. Une chronique d'un habitué de nos ondes, ce sera Fabien qui sera avec nous. Puis pour le Flash Info, il y aura Éléonore. Nous aurons droit à deux zooms, deux chanteurs, Anton Oak et Arthur Ellie. Dans la grande interview, nous allons aborder l'artificialisation des sols, pas facile à dire, avec Margot Olvoet de l'Institut de la Transition Foncière. Vous avez le sommaire, merci d'écouter la matinale de 19h sur le 93.9.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Et il est 19h et nous parlons du recul de l'objectif zéro artificialisation nette avec Margot Olvoet, de la déléguée générale de l'Institut de la Transition Foncière, au micro de Garance.
Le 18 mars dernier, les sénateurs et sénatrices ont voté à 260 voix pour et 17 contre pour une proposition de loi visant à assouplir le zéro artificialisation nette. Cet objectif visant à protéger les sols et à limiter la bétonisation et l'étalement urbain avait été introduit en 2021 avec la loi Climat et Résilience et il est désormais remis en cause. Pour en parler, nous recevons Margot Olvoet, déléguée générale de l'Institut de la Transition Foncière. Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Alors, pour commencer, j'ai une question un peu simple pour nos auditeurs et auditrices qui ne connaîtraient pas bien ce sujet. Est-ce que vous pouvez définir le zéro artificialisation nette ?
Oui, le zéro artificialisation nette est donc une politique publique adoptée, comme vous l'avez rappelé, en 2021, qui prend sa source dans le fait que la préservation des sols vivants est essentielle pour la résilience des territoires. Je rappelle ici que les sols, c'est d'abord le premier puits de carbone au niveau mondial, hein, devant les océans et les forêts qui ont perdu une partie de leur capacité de captation du carbone du fait du changement climatique. Les sols vivants, c'est aussi le premier réservoir de biodiversité. Hein, 60% de la biodiversité mondiale se trouve à l'intérieur des sols. Et les sols, c'est aussi bien sûr le support de notre alimentation par l'agriculture. Et puis le sol, c'est également un immense réservoir d'eau, de stockage d'eau, qui donc joue un rôle prépondérant dans la réduction des risques d'inondation. Donc préserver les sols, c'est préserver la qualité de vie, préserver la santé, préserver aussi le territoire des risques et préserver préserver l'agriculture. C'est pour ça que les députés et les sénateurs ont voté en 2021 cet objectif de zéro artificialisation nette qui vise à réduire largement, hein, jusqu'à quasiment la faire disparaître en 2050, l'artificialisation des sols, comprise ici, pour aller vite, comme l'urbanisation, l'étalement urbain ou la bétonisation. Peut-être pour terminer et avoir un panorama complet, l'objectif est donc d'atteindre le zéro net en 2050 et le Parlement a défini un objectif intermédiaire de moins 50% d'artificialisation en 2031, histoire d'avoir un objectif qui permette d'avoir un jalon intermédiaire pour atteindre le zéro en 2050.
Merci, on va revenir justement sur cet objectif à mi-chemin en 2031, juste après parce qu'il est au cœur de cette proposition de loi. J'aimerais d'abord avoir une toute petite précision. On parle de zéro artificialisation nette en 2050, mais on parle bien de zéro nouvelle artificialisation et non pas un retour à une renaturation des sols.
Alors c'est effectivement ce qui se cache dans le net. Hein. On ne parle pas de zéro artificialisation brute qui serait un arrêt total de toute nouvelle artificialisation. Le zéro artificialisation net vient dire que on peut continuer à artificialiser si tant est qu'on renature une surface équivalente. Donc ça, c'est à partir de 2050. Jusqu'à 2050, on a donc un rythme d'artificialisation qui doit diminuer, ce qui n'empêche pas d'avoir par ailleurs des projets de renaturation. Et d'ailleurs, dans la tranche 2031-2050, il est possible de déduire du comptage de l'artificialisation les surfaces qui sont renaturées. Et
d'accord.
À ce titre-là, il est intéressant de préciser que dans la loi climat et résilience de 2021, l'artificialisation, elle est définie en réalité de manière fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle regarde les différentes fonctions des sols. Donc les fonctions que j'ai citées en fait dans ma définition du ZAN en réponse à votre première question, à savoir la fonction hydrique, rétention, infiltration de l'eau, la fonction climatique, stockage carbone, la fonction biologique, support de la biodiversité, et puis ce qu'on appelle le potentiel agronomique. Mais bien que cette artificialisation soit définie de manière fonctionnelle dans la loi, en réalité, pour l'instant, ce que prévoit le législateur, c'est un décompte uniquement surfacique. Donc c'est une des pistes d'amélioration de cette loi.
Merci beaucoup. Alors justement, comment cet objectif est mis en œuvre dans l'esprit de la loi de 2021 concrètement? Comment ça se passe en termes d'urbanisme?
Alors la première réponse qu'on peut faire à cette question, c'est la mise en œuvre qui va se faire de manière territorialisée, c'est-à-dire que l'objectif ZAN en 2050 et l'objectif de moins 50% en 2031, il va se décliner de manière territoriale à travers ce qu'on appelle les documents de planification. Donc la première étape, c'est que les documents de planification régionaux, donc les documents d'urbanisme qu'on appelle les SRADET, vont intégrer à la suite d'une négociation avec l'ensemble des parties prenantes de leur territoire, cet objectif pour décider de comment sera répartie l'enveloppe d'artificialisation autourisée pour atteindre le moins 50% en 2031 et puis le ZAN en 2050. Une fois que le conseil régional avec l'ensemble des acteurs a défini son document régional, ensuite on passe à l'échelon inférieur qui est le SCOT, schéma de cohérence territoriale, et ensuite ça va se traduire au niveau des communes et des intercommunalités, donc dans les PLUi et les PLU. Donc on a vraiment cette cascade d'intégration qui permet de territorialiser l'objectif de zéro artificialisation nette. Un deuxième élément de réponse, c'est que bien sûr, quand on change les règles d'urbanisme, et en l'occurrence quand on passe d'un modèle d'urbanisme qui était un urbanisme linéaire, hein, c'est-à-dire qu'on allait avoir des constructions neuves qui allaient avoir un certain usage, et puis bien souvent terminé vacant. Hein, on a sur le territoire français des centaines de milliers de friches industrielles, on a des millions de logements qui sont vacants, on a des millions de commerces qui sont vacants, donc c'est ce qu'on va appeler un urbanisme linéaire. Et bien quand on passe de cet urbanisme linéaire à un urbanisme circulaire, dans lequel on va réemployer, transformer les usages, mobiliser la vacance, quand on change ce modèle, forcément il y a des pratiques à faire évoluer. Et c'est là qu'on voit que dans les territoires, il y a effectivement un changement de pratique, hein, que ce soit du côté des acteurs publics qui apprennent à travailler autrement au moment de la planification, que des acteurs privés qui vont aussi investir davantage cet urbanisme circulaire.
Et quand vous parlez de planification donc territoriale, c'est bien pour un peu se mettre en situation, une réunion intercommunautaire pour définir un PLUI, ça va être, on prend une carte et on trace les contours d'une zone qu'on ne peut plus artificialiser, en fait.
Oui, c'est ça, c'est ce qu'on va appeler le zonage. Donc dans les documents d'urbanisme, que ce soit au niveau régional, au niveau du SCOT, au niveau du PLUI et du PLU, on va définir des zones qui vont être des zones naturelles, des zones agricoles, des zones forestières, des zones urbaines ou bien des zones à urbaniser. Et donc c'est tout l'enjeu effectivement de la déclinaison du ZAN, c'est de faire passer des zones qui sont actuellement à urbaniser à des zones qui vont être agricoles ou naturelles.
D'accord. Et alors...
Pardon, ce que je voulais préciser également pour répondre à votre question, c'est que c'est pas une réunion qui va permettre de faire ça. Souvent, le processus d'élaboration d'un document d'urbanisme, il va se faire sur plusieurs années, au terme d'une concertation, puis d'une consultation, voire d'une enquête publique très large. Et donc, on va mobiliser énormément les citoyens, les acteurs. C'est pour cette raison qu'un grand nombre d'acteurs locaux, élus, beaucoup d'élus locaux à différents échelons, regrettent les débats actuels autour de cette proposition de loi que vous avez citée en introduction, puisqu'elle va venir fragiliser leurs documents d'urbanisme tout juste approuvés, qui ont fait donc l'objet parfois de 2-3 ans de négociations, et que ils devront peut-être, si ces différentes propositions de loi sur lesquelles on pourra revenir sont effectivement adoptées, ils devront donc remettre le travail sur le métier.
Oui, bien sûr, c'est justement un des enjeux des débats avec les sénateurs écologistes qui pointent du doigt le fait que plusieurs stradettes viennent d'être adoptées ou sont en phase d'être adoptées. Le sénateur républicain Jean-Marc Boyer, qui est rapporteur de la proposition de loi, parle d'une mise en œuvre impossible des objectifs fixés en matière d'artificialisation des sols. Mais concrètement, est-ce que ces objectifs donc fixés en 2021 sont réellement applicables ?
Alors, ils sont effectivement applicables. J'ai envie de vous poser une question. Si, dans une entreprise, par exemple, on se fixe des objectifs à atteindre et qu'on se rend compte qu'on a du mal à y arriver peut-être dans les délais qu'on s'était fixés. On a deux méthodes. On peut travailler à comment atteindre nos objectifs, en innovant par exemple, en cherchant de nouveaux moyens, en réfléchissant à notre modèle économique. Et puis, une deuxième option est de dire d'annuler l'objectif et de dire c'est pas grave. Je pense pas que ce soit la démarche la plus efficace en fait. Et en réalité, avec cet argument-là, on essaye presque de nous faire croire que en supprimant la solution, en fait, on va supprimer le problème. Alors que je l'ai rappelé, hein, le ZAN est arrivé avec tout un ensemble d'objectifs de résilience des territoires, de santé. Et donc, il faut garder en tête cet objectif et voir quels sont les moyens qui manquent pour l'atteindre de manière plus facile. Encore une fois, la majorité en fait, des régions ont déjà adopté leur document d'urbanisme, donc elles l'ont fait. Donc, il n'y a pas de sujet de « est-ce possible ?» puisque ça a été fait, donc c'est faisable. Reste aux autres régions à suivre ce chemin-là. Et encore une fois, un grand nombre d'acteurs privés se sont aussi mis en marche pour l'atteindre. Par contre, ce qu'on entend beaucoup chez les élus locaux, c'est le ZAN... C'est une petite révolution. On passe donc d'un modèle, comme je le disais, d'urbanisme linéaire à un modèle d'urbanisme circulaire. Donc il faut effectivement faire évoluer les pratiques, il faut faire évoluer les modèles économiques, il faut faire évoluer les moyens et l'ingénierie. C'est plus facile quand on est dans une grande métropole avec des moyens en interne pour innover sur les méthodologies que dans des petites communes qui sont pas forcément dotées de services d'urbanisme aussi fournis. C'est pourquoi beaucoup d'élus locaux vont demander davantage d'accompagnement. Et ce qu'elles vont surtout demander, et c'est absolument central sur ce sujet, c'est de travailler sur les modèles économiques et notamment sur les questions de fiscalité. Aujourd'hui, on a une fiscalité locale qui encourage l'artificialisation. Si vous voulez, dans un contexte où on va avoir des transferts de financement de l'État vers les collectivités qui baissent, la fiscalité locale, elle prend une importance encore plus prépondérante qu'elle n'avait avant. Et donc, quand la ressource financière de la commune, elle vient des nouveaux projets d'aménagement, c'est difficile de demander aux élus locaux de freiner l'artificialisation et du coup de freiner en même temps leur propre budget. Donc tant qu'on n'a pas remis sur le métier cette fiscalité locale, effectivement, on a des difficultés à appliquer le ZAN. Mais encore une fois, si on a une solution qui n'est pas totalement facile à appliquer, est-ce qu'on supprime la solution ou est-ce qu'on essaye d'innover et de se donner les moyens d'atteindre l'objectif ?
Oui, merci beaucoup. Oui, d'autant plus que vous avez pris l'exemple d'objectifs en entreprise. Là, en l'occurrence, il s'agit de la préservation des sols. Vous l'avez bien rappelé en début, c'est le premier puits de carbone. C'est les sols vivants sont essentiels, surtout dans le contexte actuel. Donc, merci pour cet éclairage.
Nous continuons dans un instant avec vous, Margot Levouette, à parler de l'objectif ZAN, zéro artificialisation nette. Mais avant, c'est l'heure de la musique Berliner Doom avec L'amour pour deux jours.
Dans un lit, sur un balcon, dans la nuit, s'oublie un peu, faire pause, survie. Deux corps, deux âmes, abîmées, éméchées, sauvages, bancales, minimales. Tes doigts sur la touche grave de mon piano accompagnent le début de la valse. S'en suivent les va-et-vient de l'archet sur les cordes de mon violon.
Avec elle, l'amour, c'est pour deux jours. C'était Berliner Doom sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Il est 19h18 et nous sommes toujours dans la matinale de 19h en compagnie de Margot Levouette, déléguée générale de l'Institut de la Transition Foncière, au micro de Garance. Et nous parlons du recul de l'objectif zéro artificialisation nette.
Et on va maintenant parler plutôt donc de la loi qui est en débat actuellement, qui est d'ailleurs discutée aujourd'hui le 30 avril à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? L'objectif du ZAN est remis en cause aujourd'hui.
Alors peut-être un petit point de clarification sur ce qui se passe en ce moment autour du ZAN avec un petit temps de chronologie. La proposition de loi que vous avez citée, ouais. Donc elle a émergé en novembre 2024. Elle a suivi son chemin au Sénat avant d'être adoptée en séance publique effectivement le 18 mars. Elle est en attente d'être mise à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Elle le sera peut-être en juin, c'est ce qui a été annoncé, bien que le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, François Rebsamen, ait indiqué qu'il ne souhaitait pas que ce texte soit examiné avant justement qu'on ait travaillé sur les questions de modèle économique et en particulier de fiscalité. Donc ce texte sera-t-il ou ne sera-t-il pas examiné en juin ? À ce stade, on n'a pas de certitude. En revanche, on a en ce moment à l'Assemblée nationale en séance publique, étudié là aujourd'hui, un tout autre projet de loi sur les questions de simplification de la vie économique, qui est un projet de loi très large dans lequel les députés ont ajouté tout un ensemble de dispositions et notamment sur le ZAN. En commission a été adopté en particulier un amendement qui supprime l'objectif intermédiaire. Et à ce titre, on peut se demander, voilà, si on n'a pas de jalon intermédiaire, est-ce qu'on va se réveiller en 2045 en se disant « Ah bah dans 5 ans, il faut qu'on soit à zéro alors qu'on n'a pas fait d'efforts jusque-là ». Mais voilà, ce projet de loi est l'occasion aussi d'un grand nombre d'amendements anti-ZAN. Mais ce projet de loi est tellement divers et touche tellement de sujets que voilà, les choses ont du mal à vraiment émerger. On a du mal à savoir dans quelle direction est-ce que ça va aller. à la question que vous me posiez, qui est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a un backlash sur le ZAN. À mon sens, ça fait partie du backlash en réalité généralisé sur les questions environnementales et au-delà en même des questions environnementales. Je pense que le ZAN est l'otage de ce backlash généralisé et que il n'est pas sa seule victime. On est également en train de parler de revenir sur le DPE, diagnostic de performance énergétique, sur les ZFE, sur tout un ensemble d'autres dispositions. Ce que je voulais peut-être souligner, c'est deux dimensions aussi du ZAN. La première, c'est que, je l'ai rappelé en début d'émission, le ZAN, c'est en réalité préserver l'agriculture française. 89% de l'artificialisation se fait sur les terres agricoles. Donc quand on parle de ZAN, en fait, on parle aussi de préserver l'agriculture française, notre souveraineté alimentaire, les revenus des agriculteurs aussi. On a estimé à l'Institut de la Transition foncière, dans une note, qu'appliquer la proposition de loi TRACE dont on a parlé tout à l'heure, qui est celle donc, qui a été récemment adoptée au Sénat, ce serait fermer plus de 3000 exploitations agricoles, c'est perdre 1 milliard d'euros de revenus pour les agriculteurs, donc c'est des chiffres qui sont loin d'être anecdotiques. Donc ça, c'est la première chose. Un second aspect du ZAN, toujours sur les questions financières, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup aussi, bien sûr, des enjeux financiers, que ce soit au niveau national ou au niveau des collectivités, c'est qu'au fond, le ZAN, c'est comme en matière de santé, c'est de la prévention. J'ai parlé du risque inondation aussi en début d'émission. Hein, le risque inondation concerne 19 millions de Français, 3 communes sur 4. Et c'est le premier risque qui pèse dans les dépenses des assureurs. 6,5 milliards d'euros en moyenne désormais, hein, les assureurs déboursent pour les catastrophes naturelles chaque année. Plus de la moitié, c'est pour les inondations. Les inondations sont très fortement aggravées dans les zones
où le sol
est artificialisé. Donc, le ZAN, la sobriété foncière, c'est de la prévention. Et on ne peut pas d'un côté déplorer l'alourdissement des finances publiques, l'alourdissement de la dette publique, et de l'autre, détruire les réglementations qui préviennent en fait un très grand nombre de dépenses publiques. Parce que j'ai parlé des dépenses des assureurs, mais les dépenses, l'État bien sûr, mais aussi énormément la main à la poche sur les catastrophes naturelles à travers le régime catastrophe naturelle.
Bien sûr, merci beaucoup. Alors le temps file malheureusement. Je voudrais qu'on revienne sur une question peut-être un peu plus de fond. Justement, vous avez mentionné donc François Rebsamen, le ministre de l'Aménagement du Territoire, qui a dit à propos du ZAN qu'il ne devait pas être perçu comme un frein au développement de nos territoires. Et c'est un argument qui est souvent avancé. Il y avait le cas de l'autoroute A69 récemment où on opposait vraiment le développement local du Tarn à la préservation des espaces naturels. Pourquoi on a cette opposition qui est presque systématique quand il s'agit de débats sur des infrastructures entre le développement local et l'écologie et la préservation des sols ?
En réalité, c'est une opposition qui est souvent assez fallacieuse. Aujourd'hui, quand on regarde le rythme d'artificialisation commune par commune, l'artificialisation se fait essentiellement dans des communes qui sont en déprise démographique, c'est-à-dire qui perdent des habitants, et ce depuis plusieurs années, au sens où on ne voit pas de corrélation entre le rythme d'artificialisation et le développement économique local. Ça, c'est une idée reçue qui est une idée fausse, qui peut être utilisée, bien sûr, dans le cadre d'argumentation, mais qui n'est pas démontrée.
Qui est même démontré par plusieurs urbanistes, plusieurs
économistes. Oui, l'inverse est démontré, effectivement. Qu'il n'y a pas de corrélation entre développement économique et artificialisation des sols. Au contraire, on a aujourd'hui, j'ai plus le chiffre est peut-être exact, mais c'est 5% des communes qui font plus de 35% de l'artificialisation, quelque chose comme ça. Et on n'est pas du tout sur des zones qui se revitalisent, au contraire. Le deuxième élément de réponse aussi, c'est que, au fond, quand on parle de ZAN, j'ai dit on parle d'agriculture, on parle de prévention, on parle de santé, etc. On parle aussi de qualité de vie, de cadre de vie. Je pense que c'est un élément qui va sans doute aussi beaucoup jouer, peut-être au moment des municipales qui se profilent en 2026, où les citoyens vont regarder aussi quels sont les endroits où il fait bon vivre, où on a un cadre de vie préservé. Et le développement local passe aussi beaucoup par ça, par le cadre de vie, par le fait que les gens ont envie de s'installer. il n'y a pas de sens à opposer développement local et préservation de l'environnement de manière générale. On sait aujourd'hui tout à fait faire de la revitalisation en centre urbain. On a, comme je le disais, des centaines de milliers de friches sur le territoire. La question, c'est voilà, celle de planifier pour revitaliser là où c'est possible et pour créer de l'activité économique là où c'est possible.
Merci. Peut-être une petite dernière question un petit peu promo pour votre organisme. Donc vous travaillez à l'Institut de la Transition Foncière qui lutte pour la préservation des sols vivants. Qu'est-ce que vous proposez donc à l'Institut comme politique de protection des sols en deux minutes?
En deux minutes, donc l'Institut, effectivement, on est une association reconnue d'intérêt général. Nous, on a deux... Alors, peut-être d'abord un mot sur ce qu'on fait. Hein. On a une démarche collective. On travaille avec aussi bien des entreprises que des collectivités locales, l'État, des associations de défense de l'environnement, des scientifiques. Et l'idée, c'est de lever les freins à la préservation des sols. C'est-à-dire vraiment de regarder les pratiques opérationnelles des acteurs et de se dire qu'est-ce qui pourrait évoluer dans leur manière de travailler pour mieux prendre en compte les sols à toutes les étapes en fait, de la planification, à l'aménagement jusqu'au projet. Et précisément sur ce plaidoyer qu'on porte en faveur de la préservation des sols, on a deux axes de travail principaux. On a un premier axe de donner les moyens aux acteurs d'appliquer le ZAN, de faire de la sobriété foncière. Donc travailler sur la fiscalité, travailler sur les modèles économiques de l'aménagement. Et puis notre deuxième axe, c'est aussi de rappeler justement ce que c'est que le ZAN. Parce qu'on parle encore une fois de sobriété foncière, c'est-à-dire de préservation des sols, c'est-à-dire de réduction des risques, c'est-à-dire aussi d'agriculture, de cadre de vie, etc. Et donc d'aller au-delà, de dépasser le ZAN, qui est une politique publique intéressante, un objectif qu'il faut maintenir et se donner les moyens d'y arriver. Mais au-delà du ZAN, en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir une vraie vision générale et cohérente sur les sols vivants, une politique publique globale. On a une stratégie nationale bas carbone, on a une stratégie nationale biodiversité, on a un plan national de la gestion de l'eau. Où sont les sols? Où sont les sols qui sont pourtant le support, encore une fois, de la biodiversité, du stockage carbone et des conditions d'habitabilité de nos territoires?
Merci beaucoup Margot Holwood. Pour rappel, vous êtes déléguée générale de l'Institut de la Transition Foncière. C'est déjà la fin de cet entretien. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, chers auditeurs, renseignez-vous sur le ZAN. Ce mot un peu long ne fait pas si peur que ça. Et les sols vivants sont essentiels, comme on en a parlé. Merci.
Merci à vous.
Merci beaucoup Margot Holwood d'avoir été au micro de Garance, toujours dans la matinale de 19h. Tout de suite, c'est les infos et c'est Éléonore qui s'y colle.
Le flash info de la matinale de 19h. Bonsoir à ceux qui nous écoutent. Tout de suite, les infos du jour que vous avez ratées. Et on commence par l'économie. Euronext, l'opérateur boursier de la zone euro, qui assure le fonctionnement, la sécurité, la transparence et le développement des marchés boursiers, lance aujourd'hui de nouveaux indices européens autour de la sécurité énergétique, l'aérospatiale et la défense. Cela fait suite de la réunion de mobilisation de mars, organisée pour pallier à la demande des entreprises françaises en manque de trésorerie et de capitaux. Société maintenant, un rapport de la Défenseure des droits rendu public ce jour portant sur la discrimination à l'accès aux soins en France. Des refus, minimisation de la douleur et des symptômes, des actes non consentis. Sont concernés, sans surprise, les femmes, les personnes d'origine étrangère, en situation de handicap et bénéficiaires de la CMU ou de l'AME. Il est souligné que les discriminations surviennent à toute étape de la prise en charge, qu'elles soient visibles, moins visibles ou conscientes. Ces pratiques produisent un manque d'informations évident qui entrave le consentement du patient, qui doit être libre et éclairé, qu'il s'agisse des services d'urgence ou des médecins. Et puis, on reste dans le secteur de la santé, puisque la HAS, la Haute Autorité de la Santé, signale qu'on ne peut évaluer le pronostic temporel individuel dans le cadre de l'aide à mourir. Il propose donc ce mardi une attention du médecin qui, recevant une demande d'aide à mourir pour maladie incurable, doit prendre en compte la demande du patient et sa volonté. Seul légitime, bien sûr, de connaître ce qui lui est supportable ou non. Pour contexte, en phase d'état avancé, la HAS rapporte qu'aucun pays européen n'a retenu un critère d'ordre temporel. Pour autant, elle s'oppose au Comité consultatif national d'éthique qui suggérait déjà d'inclure en 2022 le pronostic vital engagé à moyen terme. Guerre au Proche-Orient.
La prochaine grande offensive menée par Israël sur Gaza devrait débuter après la venue de Donald Trump qui se déroule du 13 au 16 mai. Suite à l'annonce de conquête du territoire palestinien, Pékin a déclaré s'opposer aux poursuites des opérations militaires israéliennes. Et puis dans le même temps, le porte-parole de l'armée israélienne invite les civils à évacuer dans l'immédiat la zone de l'aéroport de Sanaa, capitale du Yémen, qui reste hostile depuis les bombardements israéliens sur le port d'Hodeïda. Cette riposte face aux houthistes est condamnée par le ministère des Affaires étrangères iranien. Enfin, guerre en Ukraine, l'armée de l'air des forces ukrainiennes affirme avoir abattu 54 drones russes, survenus dans la nuit de lundi à mardi. De son côté, la Russie atteste en avoir détruit une centaine, causant la fermeture de plusieurs aéroports. Le porte-parole de la présidence du Kremlin a évoqué une réponse immédiate si une attaque se produit durant la trêve du 8 au 10 mai. Et enfin, pour conclure, Allemagne, Friedrich Merz accède à la chancellerie. Le conservateur dirigera un gouvernement de coalition entre le Parti social-démocrate, l'Union chrétienne-démocrate et l'Union chrétienne-sociale. Passera les pâquerettes un maximum de pourvoirs pour ceux qui n'étaient pourtant pas arrivés les premiers au premier tour du Parlement. Merci de m'avoir écouté.
Merci beaucoup, Éléonore. Et nous le recevons dans un instant. C'est Arthur Ellie en featuring avec Selim A, avec leur titre Les Anges.
Je reçois mes amendes par mail. C'est dommage, il fait beau. Je vais pouvoir m'enfermer dans ma chambre et revendiquer ma peau. D'ordinaire je suis calme, mais aujourd'hui j'ai la tête de mort. C'est pour le corps des bêtes, pour le pétrole par terre, pour les avions du week-end pas cher, pour les oiseaux blessés dans la ville. Et on est grave nombreux, je veux pas devenir un sac de mots chez le psy, donc je vous crie des trucs dans la langue des bêtes. J'ai le souffle court et la veine qui coule dans ma chambre, je reçois mes amendes par mail. Tous les jours on verse des poèmes par terre, et sur leur vieux monde on soupire comme si c'était nous les anges. Comme si c'était nous les anges. Comme si c'était nous les anges. Comme si c'était nous les anges.
Comme si c'était nous. Je n'aurai ni voiture, ni le brillant futur. Rêvé par mes pauvres parents. Mouton en pâture, je brouterai les ordures. Nous, les enfants perdus, on fait des monticules. La terre saigne, dévorée par la teigne. Aujourd'hui l'été dure la putain d'année. Les incendies géants brochettent mon écran. Vague de bouts de tsunami, plus de bombes et de corps. On danse sur leurs décombres, petites graines dans les airs. Sur leur vieux monde, on germe.
Comme si c'était nous les anges. 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 Comme si c'était nous les anges.
C'est Arthur Ellie et Selima, les anges.
Le Zoom, dans la matinale de 19h.
Et il vient de nous rejoindre dans le Zoom, dans la matinale de 19h. Nous recevons Arthur Ellie. Il passe du hip-hop à l'électro et aujourd'hui, il passe au micro de Mati. Bonjour Arthur et Mati.
Bonjour.
Salut.
Arthur Ellie, bonsoir. Vous êtes un artiste avec de multi-talents, la chanson et surtout la poésie. Vous êtes aussi un habitué de la radio puisque c'est votre troisième passage ici. Vous venez aujourd'hui nous parler de votre album Saignant, première bouchée, sorti le 25 avril. Un album qui est du véritable miel pour les oreilles où toute une histoire se déroule au fil de l'écoute. un album sur l'amour, la mort et les plaisirs que nous offre la vie. Comment avez-vous choisi les thèmes de cet album ?
Waouh, incroyable présentation.
Merci beaucoup.
Les thèmes de l'album, comment j'ai choisi, c'est des thèmes. J'ai pas construit l'album en me disant je vais parler de ça et de ci, tu vois. J'ai écrit beaucoup de textes, beaucoup de textes de poésie, et que j'ai essayé d'hybrider avec la musique que je fais. C'est un peu ça le taf que là j'avais les deux dernières années. C'était ça sur le chantier. Et il se trouve que la mort revient souvent, mais maintenant j'aime bien l'idée que la mort revienne comme un décor, tu vois, et que le deuil ça soit juste quelque chose avec lequel on vit. Tu vas pas parler, hop, je vais pas faire une chanson, je vais parler du mort maintenant. C'est plutôt on continue de vivre avec les gens qu'on a perdus, et ils nous aident à vivre mieux. On continue de vivre avec le souvenir, la façon dont qu'ils avaient d'aimer la vie et tout. Donc de pouvoir parler du deuil comme un décor aussi positif, tu vois, pour avancer et se construire dans la vie. Donc ça revient. Il y a aussi je parle d'amour, de différentes choses, je parle de bouffe, j'aime bien parler de nourriture dans mes textes. Et en fait, tout ça vient comment? Le lien entre tout ça, c'est essayer de comment on arrive à se parler ou à parler aux gens, soit qui sont morts, soit qui sont encore nos amis. C'est mieux de leur parler bien. Et c'est ça le thème de l'album, surtout, je crois. C'est comment se parler bien.
Alors, votre album est sorti le 25 avril. Quel est votre ressenti depuis que le public a pu s'en emparer ?
Eh bien, je reçois plein de messages trop gentils, trop touchants. Les gens ont envie de me faire pleurer à m'écrire leurs messages. Et surtout, beaucoup de gens découvrent avec la live session que j'ai sortie sur YouTube en même temps que la première partie de l'album, là, qui s'appelle Hyper Poésie. Et les gens découvrent comme ça sur YouTube. Et beaucoup de gens, après, sont venus m'envoyer des messages sur d'autres réseaux et étaient passés par là. Et j'ai l'impression que les gens captent. Moi, je crois que c'est une des premières fois où je sors les morceaux et je me sens autant en phase avec eux. Donc je me dis que les gens qui maintenant arrivent et découvrent, je pense que je dois être en phase avec eux aussi.
Parfait. Vous êtes un véritable poète, cela s'entend à travers l'ensemble de votre discographie. Vous avez même sorti en 2024 une sorte de recueil de poèmes, Les jours fument ta viande, aux éditions 10 pages au carré. Quels sont les poètes classiques et contemporains qui vous inspirent ?
Comment ça, une sorte de recueil ?
On peut dire c'est un recueil.
Non, t'inquiète, je suis là pour te stresser. Non, mais c'est un petit livre, donc c'est un peu une sorte de recueil, t'avais raison. Mes rêves, désolé, je peux pas m'empêcher de saouler les journalistes. Les rêves que j'ai, beaucoup de rêves actuels, il se passe beaucoup de trucs dans la poésie contemporaine en France en ce moment. Donc il y a Selima qui est sur l'album, qui écrit des textes de fou. Son nom d'autrice, d'auteur, c'est Selima Atalachtaoui. Elle vient de sortir un livre qui s'appelle Opieux, qui est incroyable, que je vous invite à acheter et à lire Opieux ou pas. Et il y a Laura Vasquez, que j'ai beaucoup lu, que vous connaissez peut-être, qui habite à Marseille, qui a eu le Goncourt de poésie il y a quelques années. C'était la première fois qu'une meuf jeune avait le Goncourt de poésie. Ses textes, ils sont incroyables. Je pense aussi à Victor Malzac. Je peux faire comme ça un name dropping de 10 ou 15 noms de gens qui écrivent de la poésie en France en ce moment, qui font des trucs trop forts. Donc ça, c'est pour les refs un peu modernes. Et sinon, dans des trucs plus anciens, j'ai beaucoup lu Sylvia Plath, qui est une autrice américaine des années 60, qui est devenue culte chez les féministes maintenant, et qui a des poèmes très très forts, aussi sur la mort, donc je suis là pour vous faire bader, mais qui sont des textes qui m'ont mis des claques.
Alors le 22 mai et 14 juin prochain, vous avez organisé un concert Hyper Poésie à la Maison de la Poésie. Salle comble pour les deux dates. Qu'avez-vous ressenti après avoir vu que les deux dates ont été aussi complètes en si peu de temps? Est-ce que vous avez prévu aussi une prochaine date?
Alors, qu'est-ce que j'ai ressenti? Première question, j'ai ressenti du plaisir, parce que c'est mieux de jouer devant des gens que de jouer tout seul. Sachant que ça m'arrive de jouer tout seul chez moi, je peux m'amuser aussi, mais c'est quand même moins bien. Donc déjà, j'étais content. Savoir que la musique parle suffisamment aux gens pour qu'ils aient envie de voir ce qui se passe en vrai dans le ventre. Et après, c'est quoi ta deuxième question? Ah oui, est-ce qu'il y a une prochaine date? Bah ouais, carrément. Mais on l'annonce. Je crois que la semaine prochaine, on l'annonce, ça se confirme tout et tout. Mais donc là, en fait, je dis rien de très intéressant. Mais ouais, il y aura une autre date à l'automne et ça va partir en tournée en France à l'automne aussi.
Sur les réseaux sociaux, du coup.
Ouais, voilà.
Vous considérez cet album comme le projet qui est le plus abouti abouti de votre carrière. Qu'est-ce que vous avez appris et comment vous avez évolué depuis, par exemple, votre EP Hello, qui est sorti en 2023?
La diff avec Hello, je pense que c'est surtout la pratique poésie, le fait que je me suis mis à écrire de la poésie vraiment sérieusement, à faire ça la plus grosse partie de mes journées, et que ça a pris autant de place que la musique, en gros, depuis 2-3 ans. Et le fait que sur cet album, c'est la première fois que j'arrive à trouver des formes qui me plaisent, en fait, pour dire les textes de poésie, parce qu'en fait, j'essaye, tu vois, en soum-soum dans mon ordi depuis 3 ans, mais je trouve que ça m'ennuyait à chaque fois, je trouvais ça chiant de fou, en fait, quand mes textes de poésie, même quand je les trouvais bien à l'écrit, si je les disais, je les trouvais nuls. Et là, c'est récent que j'ai trouvé des formes qui me plaisent. Donc, je pense que c'est ça, la recherche sur la langue, le fait d'essayer de ne pas parler avec des phrases toutes faites, mais de trouver une langue qui vient du corps, quoi, qui est un peu saignante, vivante, fraîche. Je pense que c'est ça la diff avec Hello. Du coup, je suis aussi revenu à un truc un peu plus rappé, parce que ma façon de dire les textes, j'ai pas trop calculé comment ça s'est passé, mais il se trouve que c'est devenu plus rappé.
Alors, saignant première bouchée entre parenthèses, qu'avez-vous voulu dire à travers le titre de cet album? Y aura-t-il une seconde bouchée, peut-être une version alternative?
Ouais, t'as tout capté, t'es trop fort. Et après, première bouchée, c'était juste pour désigner qu'en gros c'est la part 1, mais je trouvais ça plus marrant de dire première bouchée, vu que ça s'appelle saignant et que ça parle de bouffe, entre autres. Donc ouais, il y a une deuxième partie qui arrive à l'automne. Et sinon, qu'est-ce que j'ai voulu dire avec saignant? Bah, un peu ce que je te disais avant, ça concernait pas mal la langue, tu vois, l'idée de parler avec un truc un peu vénère. Je pensais à la langue saignante, ouais, le fait d'avoir une langue pas toute faite. Pour moi, la poésie, ce qui m'intéresse dans la poésie, c'est ça, tu vois. C'est comment à un moment on parle avec une langue un peu fraîche. Parce qu'en fait, tous les jours de notre life, on utilise des mots. Moi, je suis le premier, tu vois, à utiliser des phrases que les gens, ils utilisent tout fait. Et ça perd un peu de son sens, ça résonne creux. Donc l'idée de la poésie, c'est de reprendre un peu la langue en main.
Eh bien, merci beaucoup Arthur Ellie, et puis n'hésitez pas à écouter son album et aussi Hyper Poésie, disponible sur YouTube.
Merci beaucoup Arthur Ellie et merci à Mathy pour l'interview.
Merci.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Nous recevons un habitué de l'émission aujourd'hui, c'est Fabien qui vient nous faire la chronique Actu. Bonjour Fabien.
Bonjour, oui, c'est une actu, ce sont des actus insolites. Et donc on commence tout de suite, c'est un camion transportant 9 tonnes de résine de cannabis qui a été retrouvé par la gendarmerie dans un entrepôt de la banlieue de Lyon le 21 avril dernier. Il venait d'être volé à des trafiquants de drogue quelques heures plus tôt dans une station-service des Bouches-du-Rhône à Vitrolles. La police et la gendarmerie sont alors prévenus par les trafiquants volés qui les appellent de manière anonyme. Ils leur donnent toutes les informations nécessaires pour retrouver le poids lourd. Comme ce dernier était équipé de balises GPS, les forces de l'ordre ont pu le retrouver rapidement. Un concours de circonstances rocambolesque, qui a permis aux forces de l'ordre de mettre la main sur une quantité de cannabis estimée à 72 millions d'euros à la revente. Au moins 2 personnes ont été interpellées dans cette affaire, placées en garde à vue puis remises en liberté. Les 9 tonnes de cannabis ont été saisies et la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée est chargée de l'enquête. Oh là là, décidément. Et puis, quand Armand boude, il boude longtemps. Pendant 48 heures, les gendarmes ont déployé d'importants moyens pour retrouver un septuagénaire disparu à Grépiac, en Haute-Garonne. Finalement, l'homme âgé de 70 ans a été retrouvé sain et sauf, caché dans un silo à grains. Vexé après une dispute conjugale, il avait choisi de bouder sans se manifester, malgré les appels et le survol de l'hélicoptère. Si l'issue est heureuse, l'affaire a agacé fortement les gendarmes de Haute-Garonne, mobilisés en vain pour ce qui n'était qu'un conflit domestique qui a dégénéré. Et puis un photobombe, le photobombe sûrement le plus historique de tous les temps, ce n'est autre que Barack Obama qui a gâché une photo en apparaissant dans le cadre, pile au moment où une photographe tenter d'immortaliser 2 enfants à Washington, aux États-Unis. Oui, évidemment. Une fillette de 4 ans et son frère d'1 an participaient en effet à un shooting de famille le long du Tidal Bassin, un lac de barrage situé devant le Washington Monument. Mais alors que la photographe immortalisait la fratrie, Barack Obama est apparu dans le champ. Il profitait d'une balade matinale au même endroit. Résultat, sur 4 des 5 prises, Barack Obama apparaît en train de se promener accompagné de sa sécurité rapprochée. Amusé, l'ancien président a quand même partagé les photos sur Instagram. Et puis, des excès de vitesse, on connaît, et des excès de lenteur, un peu moins. Pourtant, en France, c'est une infraction qui est passible de 22 à 75 euros. Et en Suisse, c'est beaucoup, beaucoup plus cher. C'est une retraitée bernoise de 65 ans qui en sait quelque chose. À raison de 50 francs suisses, donc 53 euros par mois, elle a 4 ans pour s'acquitter des 2500 500 francs, donc 2600 euros, dont elle a écopé. Elle redescendait du col de Julier en convoi avec un ami après une course hippique à Saint-Maurice et elle est interceptée par la police cantonale après un appel anonyme. Tout simplement parce que dans les virages, pour favoriser un passage sans heurts pour leurs chevaux, ils auraient roulé entre 15 et 20 km heure et n'auraient pas laissé de place aux autres pour un quelconque dépassement. Un excès de prudence et donc de lenteur qui a été suffisant pour créer, d'après le comptage des agents, une file quand même de 175 voitures. Et encore un ? J'ai le temps ?
Oui.
Alors c'est Jean-Baptiste Ferrand qui travaille à la ferme Les Petits Béarnais à Castétis, près d'Orthez, dans le Béarn, à environ 2 heures de Toulouse. Pour guider son chien, Sico, lors des travaux avec les troupeaux de chèvres ou de vaches, il a utilisé une méthode très originale. Sarko pour aller à droite, Hollande pour aller à gauche, Macron pour aller tout droit au centre et Le Pen pour s'arrêter au garde à vous. Et puis ensuite il a brodé avec Patou pour Poutou pour recul et Mélenchon pour vient. Son chien a très bien intégré ses ordres, ou presque. Sur la droite il a tendance à resserrer vers le centre, il préférait qu'il y ait une droite libérée de Sarkozy. Sur sa gauche par contre il a tendance à prendre un peu de distance vers la gauche alors que Hollande a plutôt tendance à resserrer vers le centre normalement. Donc on va dire qu'il a un peu inversé ses façons de tourner par rapport au monde politique. Et donc pour la petite histoire, c'est dans une formation chien à laquelle il participait, il y avait un agriculteur dont le chien ne voulait jamais tourner à gauche. Alors un autre agriculteur le chambrait et lui a dit, connaissant ton bord politique, ça m'étonnerait qu'il tourne un jour à gauche. Donc il était droite forcément. Et là il s'est dit, ah mais là il y a une idée intéressante. Et Jean-Baptiste Ferrand organise avec ses collègues des visites à la ferme Les Petits Béarnais avec des démonstrations de dressage du chien qui amusent forcément beaucoup les visiteurs.
Merci beaucoup Fabien. En plus c'est chez moi, elle est géniale celle-là. On écoute Anton Oak, Je ne reviendrai jamais vraiment, et on le reçoit dans un instant d'ailleurs.
Naître autour des parcs miniatures, des faubourgs, qui peut en sortir sans prendre de coups quand aucun est un tambour. Faut je ne m'intéresse plus, je souffre de vos rires. Être l'homme que vous n'attendez plus me fait vomir. Suivre l'écran. Quand fumer des cigarettes devient un jeu d'enfant, tuer le temps. Quand ton lieu de réconfort est un banc, où sont les confidents que t'on ne veut pas porter les gants et qu'on honore les imprudents. Et si mon monde est absent, alors maintenant, avez-vous vu comme je pars, comme je prends les devants, je change de décor. C'est ce qui reste de mes âmes. Saluez les restes de mon clan. Mais regardez, je pars. Moi je veux être grand. Là-bas je sais que quelqu'un m'attend. Je vois bien vos regards. Mais je ne reviendrai jamais vraiment. Je ne reviendrai jamais vraiment. Insulter nos mères et cracher sur des gens. Devenir un homme, se créer des problèmes. Écouter à la violence. Et ce depuis nos naissances. Pourquoi est-ce que la faiblesse n'est jamais la réponse? Pourtant aimer ses frères d'un autre père est une évidence. Et je vois se réduire en poussière. Pour moi être fier de ces pansements à l'adolescence n'a pas de sens. Et si je fuis ces nourris de vos peurs, mais je préfère à vos coups la douceur de nos sœurs. Donc gardez vos discours, je les connais par cœur.
C'était Anton Oak, Je ne reviendrai jamais vraiment.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Il est l'heure du deuxième Zoom et c'est un entretien mené par Agalé avec un chanteur passionné de musique électronique, Anton Oak.
Donc on reçoit Anton Oak ce soir dans le Zoom. Salut Anton, comment ça va ?
Salut, ça va très bien, je suis très content d'être ici.
Bah moi aussi je suis très contente que tu sois là. Alors on te reçoit aujourd'hui à Radio Campus pour parler de ton nouvel EP Attendre ton tour, qui est sorti le 25 avril. Alors pour nous mettre en appétit, tu avais déjà sorti en février et en mars deux singles qui posent un peu l'ambiance musicale de l'EP. Est-ce que tu peux nous donner là, comme ça, trois mots qui reflètent ton projet ? Parce que moi j'ai des mots, mais j'aimerais bien un peu que tu nous donnes les tiens d'abord.
Waouh, c'est dur, faut que je vienne préparer à ce genre de truc, sinon ça marche pas du tout. Écoute, pour rester un peu général, je vais dire chanson, électronique et fragile, pourquoi pas.
Ok, fragile. Ouais, moi j'aurais mis des trucs aussi un peu... calme, mais c'est vrai que le côté électrique, électronique, ça donne des rythmiques un peu originales et qui, je trouve, contrastent vraiment avec tes paroles. Parce que moi, ce que j'ai remarqué dans tes chansons, c'est qu'il y a une poésie dans tes textes, c'est vraiment recherché. Vraiment, j'avais l'impression que tu me racontais des histoires un peu, mais où je connaissais pas trop le début, la fin.
Ok.
Et je me demandais, est-ce que t'as... La question un peu cliché, mais comment tu trouves l'inspiration pour écrire tout ça ?
Écoute, c'est pas facile du tout, surtout que c'est le troisième EP que je sors après une pause d'un certain temps. Et avant, je chantais en anglais.
Ah,
j'étais aidé pour écrire. Et là, j'ai fait une bascule en français, donc j'écris mes textes maintenant. C'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. Donc, comment viennent les textes ? C'est un peu particulier. Disons qu'ils sont écrits vraiment en même temps que la musique. C'est des choses qui sont assez... les deux sont assez dépendants l'un de l'autre. Évidemment, ça parle de moi, ça parle des choses qui m'entourent et j'essaye, et c'est ça qui est assez difficile évidemment, d'écrire des choses qui parlent à tout le monde en essayant de pas être trop cliché, en essayant d'aller chercher des choses un petit peu originales. Et puis, de toute façon, je suis moi-même en découverte de ma façon d'écrire encore.
Ouais.
Donc voilà, je sais pas si je saurais t'en dire bien plus, mais c'est quelque chose d'assez organique en tout cas.
Et du coup voilà, donc t'écoutes tes mélodies et donc t'arrives à écrire en même temps, tu te poses dans un endroit, tu...
Alors j'ai mon studio dans lequel je travaille.
Okay.
Quand je te disais que c'était assez interdépendant, vraiment les mélodies sont très dépendantes des phrases que je choisis de chanter. En fonction de la phrase, je pense que si j'avais changé quelques syllabes, rajouté des pieds à droite à gauche, j'aurais eu des mélodies qui auraient été complètement différentes.
Ouais.
Donc voilà, je sais pas si c'est une façon très classique d'écrire, mais les deux se construisent vraiment en parallèle.
Ok, mais bah en tout cas c'est super intéressant. Et là, comme tu disais, du coup tu reviens après une pause musicale en fait qui a duré 7 ans, vu que j'ai calculé entre les derniers EP.
T'as fait tes calculs malheureusement.
Oui, bah ça va, c'était pas trop difficile. Et moi je me demandais si est-ce que Attendre ton tour, c'est plutôt une continuité de tes précédents albums ou alors c'est vraiment un nouveau départ. Alors déjà tu disais que t'as changé de langue, mais en termes de même d'ambiance musicale, de rythmique, est-ce que ça n'a rien à voir ?
Ça a pas rien à voir. J'ai quand même essayé de retrouver des choses que j'avais dans mes deux premiers EP et que j'avais installé, un peu malgré moi, c'est pas comme si j'avais fait exprès, mais c'est vrai qu'il y avait déjà cette balance entre musique électronique et instruments acoustiques qui était mélangée, voire superposée. Donc j'ai gardé ça parce que le projet c'est toujours le même et puis je pense que c'est de toute façon une musique qui me touche un peu particulièrement. Mais t'as raison, je le prends quand même comme un nouveau départ. Je trouve que chanter en français c'est quand même quelque chose de vraiment différent. Je suis beaucoup plus tout nu.
C'est ce que j'allais demander.
C'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus difficile et transparent du coup d'être un artiste quand on chante dans sa langue.
Ah ouais, non mais c'est sûr. Oui, parce que du coup le français c'est ta langue.
C'est ma langue maternelle. Tout à fait, ouais.
Ok. Ouais, mais oui, c'est vrai qu'on a tout de suite cette vulnérabilité qui sort dès qu'on se met à écrire. Mais même quand on écrit des poèmes, n'importe qui écrit des choses, moi, ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens aussi quand j'écris un peu. Et du coup, comme là, tu disais, ton projet, donc de ce que j'ai compris en écoutant ton EP, c'est de mélanger donc voilà, des sonorités plutôt classiques avec de la musique électronique. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ta version live de Attendre ton tour, qui est d'ailleurs disponible sur YouTube, où on t'entend chanter avec des violons, des claviers, un violoncelle, si je ne me trompe pas, des percussions. Et j'ai trouvé ça super réussi. On sent toutes ces influences qui se mélangent. Et moi, je me demandais comment, dans tes compositions, t'en es venu à mélanger ces genres musicaux qui, au premier abord, on ne penserait pas que ça fonctionnerait aussi bien ensemble.
Ouais, comment j'y suis venu ? Je crois que c'est assez simple. En fait, je suis violoncelliste. C'est mon instrument d'enfant. Tu sais qu'on commence à l'école de musique. Donc, je dis souvent que je suis un violoncelliste en plastique, pas un très très bon violoncelliste parce que c'est pas mon métier d'être violoncelliste. Je me place pas en tant que violoncelliste quand je vois tous les gens qui font ça professionnellement, mais en tout cas, je l'utilise beaucoup dans mes productions. Quoi. C'est quelque chose que j'ai à côté de moi, que j'utilise tous les jours. Donc, évidemment, il y a très vite les cordes qui se sont glissées dans puisque je voulais être de la musique électronique.
Ouais.
Et petit à petit, ça se développe. Donc là, ouais, ce que tu as vu sur Je ne reviendrai jamais vraiment, j'ai joué avec un super quatuor à cordes qui s'appelle Mademoiselle Quartet.
Okay.
Et un vibraphoniste, ouais, tout à fait. Allez voir, c'est assez rigolo.
Ouais, non, mais c'est super impressionnant. Et du coup, est-ce que t'as un peu des influences, je sais pas, d'autres artistes, de compositeurs qui arrivent aussi à travailler ces sonorités, même peut-être des compositeurs très classiques, des compositeurs très électroniques
Ouais, je pense qu'il y a des. Je pense que j'ai des compositeurs classiques qui reviennent régulièrement dans mes harmonies. Je pense à Dvorak, que j'aime beaucoup, et je pense qu'il pointe le bout de son nez, même quand je cherche sur mon piano à écrire des nouvelles choses. Après, dans les artistes modernes, il y a évidemment beaucoup de choses que j'aime bien. À l'époque, je citais beaucoup James Blake, parce que okay. Il a ce truc de mettre, lui, c'est un claviériste, c'est un pianiste, mais il a ce truc de glisser de l'acoustique dans des choses électroniques, de réussir à en faire de la chanson. Je crois que c'est toujours une référence, alors que c'est vieux hein, maintenant, ouais. Que je le traîne, que je la traîne celle-là, mais ouais, j'ai ça.
Mais quand on a une bonne référence, on la garde,
ouais, c'est
et on la réutilise. Bah ouais, c'est clair. Et du coup, moi, là, c'est ma curiosité qui parle.
Je t'en prie.
Donc, tu as été violoncelliste, mais donc quand t'étais enfant.
Ouais, bah j'ai fait l'école de musique.
C'est quoi ton parcours musical?
Ouais, alors
j'adore moi ça.
J'ai commencé en faisant du violoncelle et en parallèle je faisais du chant. Alors attention, j'étais à la maîtrise de l'Opéra de Lyon, c'est le chœur d'enfants.
Ok, oui,
qui
je vois.
Qui va jouer dans les productions des opéras. Il y en a un peu partout en France. Et donc j'ai fait ça en parallèle, ouais, jusqu'au collège, lycée, et après à la fin de mon lycée, je suis parti en fac de musicologie.
Ouais.
Parce que je savais pas trop quoi faire d'autre, évidemment. Et que j'ai poussé jusqu'au master pour faire un master de musique appliquée aux arts visuels.
Ah oui.
Voilà, que le master MAV que je salue, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je suis plutôt compositeur de musique.
Ok.
Et Antono, qui est mon projet perso, mon petit projet à moi, mon petit bébé.
Ok, trop bien. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu parles de ton master, parce que j'avais une question qui rejoint un peu la musique et les arts visuels. Parce que j'ai vu que pour promouvoir ton EP, sur Insta, t'as posté des réels super, yes, beaux, avec des illustrations de Jules Rigol, si,
exact,
je ne me trompe pas, et des extraits de tes chansons. Moi, je trouve que c'est super coloré, que les images, elles s'enchaînent très bien au fil des mélodies. Et donc, je me demandais, est-ce que tu travailles souvent avec d'autres formes artistiques pour illustrer ta musique? Et est-ce que le dessin, c'est une forme qui, toi, te parle plus peut-être qu'une autre?
Je sais pas si ça me parle plus, mais c'est vrai que j'ai une relation assez privilégiée avec l'animation, parce que j'ai fait beaucoup de musique pour des films d'animation. D'abord des films d'animation étudiants.
Okay.
Par exemple à l'école des Gobelins où j'ai rencontré Jules, justement.
Okay.
Et effectivement, il y a quelque chose de toujours très poétique qui se met en route, particulièrement chez Jules. Et moi qui ai un peu envie de me cacher, quand j'ai dû penser à comment faire du contenu, des reels, c'est vrai que c'est venu assez rapidement, connaissant son travail, connaissant l'animation, de me dire « Ah ouais, ce serait quand même vraiment sympa, ouais, de demander à quelqu'un d'illustrer ça. »
Ouais, mais parce que j'imagine que là, en tant qu'artiste émergent, c'est des questions que tu te poses par rapport à la communication, enfin comment montrer ton projet de d'autres manières sur les réseaux sociaux, tout ça. Et j'ai l'impression que ça, c'est un truc qui fonctionne, de faire des reels avec vraiment des... Bah là, ça vraiment, on voit que c'est un projet qui a été fait ensemble avec Jules.
Ouais, je pense, je l'espère en tout cas. L'idée, c'est de laisser une belle trace artistique, avec des belles collaborations, et de voir ce qui ressort un peu tout ça, petit à petit, en travaillant avec les uns, avec les autres, avec ma copine Léo qui a fait mes photos. Il y a une identité, okay, qui se dégage, et même avec, ouais, mon vieux copain Robin qui fait mes clips depuis très longtemps, qui lui aussi a imposé une patte à Antono, qui est, voilà, l'identité de mon projet tient à eux et à elle aussi.
Ouais. Et là, il y a des clips un peu prévus en nouveauté pour l'EP.
Écoute, non, je pense que tu as tout vu. On a,
ouais,
sorti un clip et deux sessions live.
Ouais,
voilà. Cette EP qui fait 5 chansons. Donc bon, est-ce qu'on va continuer à tirer sur les chansons pour faire de l'image à chaque fois? Je sais pas. On travaille sur l'EP d'après. Donc là, il y a des nouvelles,
ah ouais,
choses qui vont arriver.
Déjà.
Ouais, exactement. Il faut que ça s'enchaîne un petit,
ouais,
peu.
Il est prévu, déjà, il y a déjà une date un peu pour l'EP d'après, ou là, c'est vraiment...
Écoute, avec le label, on parle de fin d'année. Fin, okay, d'année, donc... Faut que je me mette au travail.
Ouais, donc là, il y a 6 mois, là, l'été, ça va charbonner.
Ouais, exactement, il n'y a pas de vacances.
Ok, mais trop bien. Merci beaucoup pour ces interviews. Je ne sais pas si tu as un petit mot que tu voudrais ajouter pour dire aux gens de streamer ton projet.
Un petit mot pour leur dire d'aller streamer. Allez-y.
Allez streamer.
J'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va vous toucher. Et que voilà, on restera bons amis et que vous reviendrez une fois de temps en temps m'écouter. Ce sera déjà
d'année.
Pas mal.
En fin d'année,
en
du
fin
coup.
En fin d'année.
Bon, moi j'ai hâte d'écouter le futur EP encore.
Ça
déjà,
me fait
on
très
a celui-là,
plaisir.
Donc on se concentre sur celui-là et on attend la suite avec impatience.
Trop bien.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
À bientôt, j'espère.
Salut.
Bonne soirée.
Merci beaucoup à Aglaé qui a mené son entretien avec Anton Hock. La matinale s'est terminée. Merci à Garance et à son invité Margot Holvout, à Fabien pour la chronique et Léonore pour le Flash Info et à Mathis Guerra, son invité Arthur Hélé, et au Zoom Anton Hock que je viens de remercier à l'instant. À la réalité, c'était David et à la coordination Alice et Maïwen. On revient demain à 19h sur le 93.9. Au revoir, à demain.
Vous écoutez Radio Campus Paris 93.9 FM, 17h30, 5h30.